François Copé, conte rapide, les pommes cuites. Ridées, luisantes, noircies depuis d'un coup de feu, les pommes cuites mijotaient sur un petit fourneau de faïence à la porte d'une humble fruiterie de la rue de Seine, et elles étaient destinées, selon toute apparence, à constituer le dessert de quelques ménages d'ouvriers, lorsque la comédienne Sylvandir, la grande coquette de l'Odéon, qui passait dans sa Victoria, aperçut le petit fourneau et fut prise d'un caprice étrange. Au grand ébahissement de la vieille fruitière, l'élégante voiture s'arrêta devant la boutique, la belle dame en descendit, déganta sa main droite et, sans gêne aucune, encombrant le trottoir de sa toilette tapageuse, elle se mit à manger une, deux, trois pommes cuites avec un appétit tout populaire. En ce moment, un homme déjà vieux, mais grand, fort et portant haut la tête, qui arrivait en mâchonnant un gros cigare et les mains plongées dans les poches de son paletot orné d'un large ruban rouge, passa tout près de l'actrice, la reconnut et partit d'un bruyant éclat de rire. « Comment, Sylvandir, tu aimes tant que cela les pommes cuites, toi, une actrice ?» Elle se retourna et reconnut la barbe teinte et la face audacieuse du célèbre auteur dramatique César Mauger, du satirique amer et effronté, dont chaque pièce est un triomphe et un scandale, et qui s'est fait adorer de la société moderne comme un ruffian par une fille en la cravachant. « Un souvenir d'enfance, mon cher maître, » répondit gaiement la grande coquette en faisant une révérence comique au pacha théâtral. « Ah, cela me rappelle l'époque où je portais mes cheveux dans un filet de chenilles rouges et où je logeais chez papa, qui était cordonnier rue Ménilmontant et qui me fichait les calottes quand je rentrais au bal Favier que le lendemain à midi. On n'a pas toujours été une grande artiste, » continua-t-elle avec un horrible accent de blague faubourienne. « On n'a pas toujours avalé sa langue en compagnie d'un empaillé de prince russe qui vous appelle madame jusque sur l'oreiller. Et vous voyez, mon cher, on rougit pas de son origine. Les pommes cuites et Eugène, oh, j'avais un Eugène alors. Oh, c'était le bon temps. » La cynique boutade de la coquine fit sourire l'homme du théâtre, vieux parisien corrompu. « Et il paraît que tu as un succès fou dans la petite baronne, » dit-il à la comédienne, qui, ayant payé la vieille fruitière, était remontée dans sa Victoria et reboutonnait son gant. « Vous n'étiez donc pas la première ? » s'écria-t-elle étonnée. « Non, non, je ne vais presque jamais à l'Odéon. Eh bien, venez donc voir ça, je vous assure, ça vaut le voyage. Allez, adieu !» César Mauger mentait. Il avait si bien vu Sylvandir dans La Petite Baronne qu'il songeait à lui confier un rôle, mais il n'était pas encore tout à fait décidé et il craignait de se compromettre. La vérité, c'est que depuis 2 mois, tout le public était amoureux de la grande coquette qui chaque soir opérait ce miracle de remplir l'Odéon de jeunes clubmen en gilets à cœur. Cet engouement du Paris blasé, légitime par hasard, car Sylvandir est une fille atroce, mais une exquise comédienne, était surtout causé par le regard dont elle soulignait le mot « peut-être » à la fin du 3e acte de La Petite Baronne. Ce regard, chef-d'œuvre de perversité et de bovarisme, ce regard qui exprimait et résumait toute la poésie malsaine de l'adultère, avait suffi pour transformer le provincial Odéon en rendez-vous élégant, en centre de la haute vie. Surpris d'abord et ahuri par le succès, le directeur n'avait pas tardé à reprendre ses esprits et s'était mis à la hauteur de la situation. Pour remplir les loges, les longs entractes de la petite baronne, la pièce jolie d'ailleurs se composait de 4 petits tableaux de 25 à 30 minutes chacun, il avait rempli et rétabli l'orchestre. Non le vieil orchestre odéonien qui rappait des valses surannées, mais un double quatuor de virtuoses choisies, jouant avec un ensemble parfait, un peu de bonne musique, et berçant les conversations des mondaines, en train de picorer des fruits glacés dans leur loge, au gazouillement des fauvettes d'Heine et des rossignols de Mozart. S'il n'eût pas tremblé pour sa subvention et redouté la commission du budget, ce directeur, à qui les fumées du succès montaient à la tête, aurait fait imprimer sur son affiche, sur la grave et classique affiche de l'Odéon, pour mieux annoncer le clou de la petite baronne, tous les soirs à 11h moins un quart, le regard de mademoiselle Sylvandir. Or, le jour de la 65e, la comédienne était en train de faire son changement du 3, l'acte du regard, et la délicieuse brune, épaules et bras nus, baissait la tête pour enfiler la robe que lui présentait l'habilleuse, lorsque César Mauger entra dans sa loge, brusquement, ayant à peine frappé à la porte. L'actrice poussa un petit cri, mais l'auteur dramatique, une vieille connaissance, la baisa sur le croquant de l'oreille, par égard pour le maquillage, puis après avoir allumé un cigare au bec de gaz de la toilette, il se laissa tomber sur le canapé, ôta son chapeau, et tournant les yeux d'acier vers la comédienne. « Sylvandir, lui dit-il, veux-tu jouer ici le premier rôle de ma nouvelle pièce ?»« Oui, celle que je destinais au vaudeville. » Autant aurait valu demander à un desservant de village s'il voulait être pape. Sylvandir eut un éblouissement. Laissant la robe béante sur les bras tendus de l'habilleuse, elle sauta sur le canapé auprès de l'auteur célèbre, lui jeta les bras au cou et, presque nue, la gorge hors du corset, ouvrant dans un sourire libertin la grenade mûre de sa bouche, elle s'écria « Oh, si je veux !» Mais, le lâchant aussitôt et s'éloignant de lui d'un bond, elle ajouta d'une voix froide « Mais à quelles conditions ?» Mauger laissa éclater son gros rire, puis une fois calmé, tirant une bouffée de son cigare, il reprit « Mais tu es décidément une fille d'esprit. Allez, enfile ta robe et écoute-moi. » Et comme elle se hâtait d'agrafer son corsage, « À propos, et les pommes cuites de la rue de Seine ?» demanda-t-il. « Eh bien, elles sont très bonnes, répondit Sylvandir, et j'en mange tous les jours en revenant de la répétition. » Chapitre 2. Depuis 2 semaines, César Mauger venait tous les soirs à l'Odéon, et caché dans l'ombre d'une baignoire, il étudiait le jeu de Sylvandir. Car on n'en pouvait plus douter, c'était une étoile qui se levait, et il n'avait plus qu'à retirer sa pièce du vaudeville. Mais la comédienne n'était pas toujours en scène dans la petite baronne. Et pendant ses absences, l'auteur dramatique, n'écoutant plus cette prose qu'il savait par cœur, s'amusait à observer, pour tuer le temps, non la salle qu'il ne voyait pas du fond de sa loge, mais les musiciens du petit orchestre rétablis par le directeur en l'honneur de la pièce en vogue. Quant au chef Mauger le connaissait bien, c'était le vieux et savant symphoniste Thiermann, réduit par le besoin à courir le cachet et à tenir le bâton dans les petits théâtres. Thiermann, l'émule de Berlioz, qui aura la même destinée que Berlioz et dont l'unique opéra, La Reine des Amazones, sifflé à Paris il y a une vingtaine d'années, deviendra un jour classique, César Mauger, homme à succès, n'aimant que le succès, murmura dédaigneusement le mot « raté » en apercevant au fauteuil le profil d'aigle déplumé du vieil homme de génie étriqué dans sa redingote de pauvre. Les autres musiciens n'offraient pas des types bien remarquables. Pas plus le premier violon, avec sa cravate blanche en foulard et sa chevelure fougueuse de photographe, que la contrebasse, vieillard chauve et résigné, prisante avec bruit ou que la flûte gagiste de régiment à dure moustache de gendarme. Un seul des exécutants intéressa l'observateur dès le premier coup d'œil. C'était l'alto, un tout jeune homme, 20 ans à peine, adorable visage d'éphèbe blond et rose, aux sombres yeux bleus, que ses longs cheveux ondulés et bouffants faisaient ressembler au personnage des portraits de Bernardino Luini. Un véritable artiste, à coup sûr, et dont l'ardeur se trahissait rien que par la crispation de sa petite main maigre sur le manche de son instrument. Pauvrement mais proprement vêtu, il se tenait assis avec modestie, son alto sur la cuisse, attendant le signal du chef, sans parler à ses camarades, sans regarder la salle, comme absorbé par une pensée intime et profonde, avec quelque chose dans toute sa personne de grave, de fier et de pur. Si sceptique, si dur de cœur que fut ce pourri de Mauger, il fut frappé par cette fraîche et charmante apparition, d'autant plus qu'en observant le musicien au moment où Sylvain Dir venait d'entrer en scène, il remarqua que le regard du jeune homme s'attachait avidement sur la splendide créature et s'emplissait d'une tendresse infinie. C'était évident, cet enfant au teint de vierge aimait l'actrice d'une passion sans espoir. 2 jours après, rencontrant Thiermann sur le boulevard Montmartre, Mauger interrogea le chef d'orchestre sur le compte du jeune musicien. « Amédée !» s'écria le vieux maître avec enthousiasme. « Oh, un charmant enfant, mon meilleur élève. Retenez ce nom-là, Amédée Marin. Ce sera celui d'un sincère et, j'espère bien, d'un grand artiste. Sa mère était fruitière rue de Seine et gagne à peu près sa vie, mais comme la bonne femme devient vieille et ne peut plus se lever de grand matin, c'est Amédée qui ouvre la boutique dès 6 heures et qui allume le fourneau aux pommes cuites en hiver, ce qui n'empêche pas de veiller des nuits entières devant son pupitre et de comprendre la sublime musique de Bach aussi bien que moi. » César Mauger fut flatté de ne s'être point trompé. Vraiment, c'était quelqu'un, ce joli gamin qui brûlait d'une flamme timide pour Sylvain Dir. Est-ce bête la jeunesse ? Songeait le vieux sultan de coulisses au fond de sa baignoire, tout en regardant Amédée extasié devant son idole. Dire que ce malheureux petit croque-note s'imagine peut-être qu'une actrice est une femme et que Sylvain Dir est capable d'un sentiment. Sylvain Dir, qui à 20 ans avait déjà ruiné un banquier juif et qui remettrait Jésus en croix pour voler un rôle à une camarade. Comme il la dévore des yeux. Mon Dieu, est-ce bête, ces jeunes gens, est-ce bête? Soudain, une idée singulière et perverse fit éclosion dans l'esprit du dramaturge. Les femmes de théâtre n'étaient-elles pas toutes à sa discrétion, Sylvain Dir la première? S'il n'en usait pas, c'est qu'il avait dételé depuis longtemps. Eh bien, il s'amuserait à réaliser le rêve du musicien. Il jetterait Amédée dans les bras de cette femme, que le jeune homme ne pouvait voir, admirer, désirer que de loin, au-delà de la rampe, barrière infranchissable. Et ensuite, on verrait ce qu'il adviendrait de la conjonction de cet innocent et doux être et de cette fille qui n'avait pas plus de sensibilité qu'un négrier. Comment ? Oh, c'était bien simple. César Mauger ne donnerait son rôle nouveau à Sylvain Dir qu'à cette condition-là. Oh, il la connaissait, l'accepterait tout de suite. Ce serait drôle, n'est-ce pas ? Le contraire de Don Salluste montant la reine à Ruy Blas. Le fils de la fruitière chez qui Sylvain Dir allait manger des pommes cuites aurait, pour quelque temps du moins, la plus magnifique courtisane de Paris. Et Mauger souriait à son projet avec une espèce d'ignoble bonté. C'est pourquoi le soir où il était venu fumer un cigare dans la loge de Sylvain Dir, la comédienne laissa tomber son regard, le fameux regard du troisième acte, sur le petit musicien de l'orchestre qui, épouvanté de bonheur, ferma les yeux et crut qu'il allait mourir. Chapitre 3. La première fois que Mauger vit dans la loge de Silvandir le petit Amédée blotti dans un coin du canapé, parmi les jupons épars, et contemplant avec des yeux égarés et comme fou de désir la nuque et les épaules mythologiques de la royale drôlesse assise à sa toilette et en train de faire sa figure, le vieux dilettante en débauche eut un mouvement d'orgueilleuse satisfaction. Ce que c'est qu'un auteur à succès, pourtant. Lui seul était assez puissant pour donner une pareille aumône à un pauvre diable. Rothschild lui-même n'aurait pas pu en faire autant. Silvandir était une femme à fantaisie, point vénale de nature, cupide seulement par occasion. Et, tout en accompagnant l'actrice dans les coulisses, il la fit causer. C'est tout de même une drôle d'idée que vous avez eue, dit-elle, de servir du dieu Mercure à ce gamin. Mais si vous avez cru m'imposer une corvée, vous en êtes capable, vous êtes quelquefois si mauvais. Eh bien, c'est une erreur, mon cher. J'ai eu tout de suite un caprice, moi, pour cet enfant. Il faut être juste aussi, il est arrivé à propos. Depuis quelque temps, Libanov m'assommait avec son accent gras et sa façon de se dire « moi tueur ». J'avais besoin de quelques semaines de vacances, alors j'ai mis à la porte. Le petit fera l'intérim, il me plaît avec sa tête de Piferaro. Et puis il est étrange, il y a des fiertés soudaines, des jalousies, des colères contre moi qui me font plaisir, oui, qui me chatouillent le cœur. Par moments, dans mon boudoir, il prend tout à coup des airs tristes et farouches qui me font songer à un rossignol en cage que j'ai vu autrefois chez Colomba à Agnières. Mais je n'ai qu'à le regarder d'une certaine façon pour qu'il tombe à mes pieds et qu'il se roule la tête sur mes genoux en pleurant. Et ça me rend toute chose. Oh, drôle de petit homme. Et elle ajouta, rêveuse, « Et si j'allais me toquer de lui tout de même ?» Silvandir avait dit vrai. Mauger était mauvais, naturellement. À ses propos de femme amoureuse, il éprouva la rage envieuse de l'homme fatigué avant l'âge, éreinté, fini. Mais la comédienne s'était mise à rire. « Bah, c'est un petit revenez-y de jeunesse. Dites donc, Mauger, c'est peut-être d'avoir mangé des pommes cuites ?» D'ailleurs, deux jours après, il était bien question de toutes ces bêtises-là. La nouvelle comédie du célèbre auteur L'Argent Roi venait d'être mise à l'étude, et il en dirigeait avec ardeur les répétitions, repris par sa soif inétanchable de succès et d'argent. La pièce, on s'en souvient, tomba, ou à peu près. C'est d'elle que date la décadence de Mauger, et Silvandir y fut médiocre dans un rôle qui ne lui convenait pas. Énervé, furieux de voir les recettes du théâtre baisser au bout de 8 jours, l'auteur dramatique, chez qui venait de se réveiller de vieux rhumatismes, alla se réchauffer au soleil de Nice et y resta jusqu'à la fin de l'hiver. À son retour à Paris, une des premières figures de connaissance qu'il rencontra fut Tirman, dont la vue lui remit Amédée en mémoire. Il s'enquit du petit alto de l'Odéon. « Amédée !» dit le maestro, dont le maigre et dantesque visage se creusa douloureusement. « Oh, c'est bien triste, et nous ferions mieux de parler d'autre chose. Imaginez-vous qu'il y a quelques mois, ah, mais tenez, quand on a joué votre dernière pièce, il est devenu fou d'amour de cette Silvandir, vous savez, une coquine. Le malheur, c'est que par extraordinaire, elle l'a remarqué elle aussi, et qu'elle a eu une sorte de fantaisie pour lui. Cet enfant naïf, ce cœur d'artiste ingénu, livré à cette fille. Une branche de lilas blanc tombée dans une cuvette, quoi. Elle a d'abord quitté pour lui un certain Libanov, puis quand tous les écrins ont été au Mont-de-Piété, Elle a repris son russe et le malheureux Amédée est devenu l'amant qu'on embrasse entre deux portes, qu'on cache dans les placards. Toutes les hontes. Il a fini par prendre son courage à deux mains et par s'enfuir, mais souillé et désespéré. Il est allé se réfugier chez sa mère, la vieille fruitière de la rue de Seine, dont, par pudeur ou qui sait, par vanité, il n'avait jamais parlé à cette femme. Sans quoi, s'il va en dire, serait peut-être allé le relancer jusque-là. Ayant été acquitté la première, elle était entrée en folie. Eh bien, il ne peut pas oublier cette créature, il en meurt, il ne fait plus de musique. L'autre jour, quand je suis allé le voir dans sa mansarde, je l'ai trouvé couché et il m'a fait peur avec ses yeux caves et bolants de fièvre. Sans la maman, m'a-t-il dit, ce serait tué. C'est atroce, n'est-ce pas? Un musicien ne devrait jamais avoir d'autre maîtresse qu'une fugue de Bach ou qu'une partition de Gluck, comme ma parole d'honneur. Bouger eut un petit frisson, sentit quelque chose qui ressemblait à un remords. Mais l'égoïste reprit bien vite le dessus. Est-ce qu'on meurt de ça? Il n'y pensa plus. Mais l'hiver suivant, au bal des artistes, il se trouva brusquement devant Sylvandir, plus belle que jamais dans un costume rouge de Dogarès et aveuglante de diamants. Eh bien, mon auteur, lui cria l'effronté, on m'a donc lâché tout à fait depuis l'argent roi. C'est pas ma faute à moi toute seule, après tout, si nous avons eu un four. Faites-moi un autre de rôle et nous prendrons notre revanche. L'auteur dramatique, vexé par ce fâcheux souvenir, ne répondit que par un maigre ricanement, puis bêtement, pour dire quelque chose, il demanda à la comédienne « Et les amours ?»« Ni, ni, c'est fini. »« Oh, j'ai repris le collier de misère, » répondit la belle-fille en touchant les diamants qui étincelaient sur la peau ambrée de sa ferme poitrine de brune. « Voici le plus récent hommage de Libanoff. » L'ancienne grisette est morte et enterrée définitivement. Plus d'Eugène, plus d'Amédée, qui fut mon dernier Eugène. À propos de ça, Moger, vous vous rappelez le jour où vous m'avez rencontré devant cette fruitière de la rue de Seine? Eh bien, je suis passé par là l'autre matin en voiture. La boutique était fermée. Il y avait un billet encadré de noir collé sur le volet. Et j'ai vu s'éloigner le corbillard des pauvres avec une vieille en deuil qui marchait derrière. Oh, je suis superstitieuse, moi. Si jamais j'ai encore une envie de pommes cuites, oh, ce n'est plus là que j'irai en manger. C'est dommage, elles étaient excellentes.